la technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison. C'est Tech2 sur Blueprint.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech2 épisode 61, le podcast Blueprint qui regarde la technologie à travers ses usages, aussi bien, oui, au télétravail, dans la vie courante ou encore dans les loisirs. Je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné par mon comparse, mon camarade, mon ami, Franck Exanasi. Salut Franck.
Salut Yann, camarade.
Camarade, oui, effectivement, on enregistre cet épisode un 1er mai, la fête des travailleurs, qui à toute autre référence serait dangereuse, nous rappelle Philippe Martinez et sa belle moustache. Au sommaire de cet épisode, pas de dossier, Franck va vous parler de clavier et je vais vous parler de Strix Workout. Donc on va être d'une part assis sur une chaise et de l'autre s'activer les muscles. Mais d'abord, on attaque avec l'actualité, notre actualité, ce qu'on a utilisé, ce qu'on a peut-être acquéri, je ne sais pas, en tout cas toi.
Acquis.
Mon cher Franck, effectivement, acquis. J'ai dit acquéri, quelle horreur.
Oui.
Ce n'est pas français. Suisse. Voilà. Attends. Ce qu'on a acquis, et pour toi, ça commence, Franck, avec RTX Voice.
Oui Yann, alors ça c'est quelque chose dont on avait déjà parlé un petit peu quand je vous avais parlé des cartes graphiques Nvidia, n'est-ce pas? On avait parlé de deux programmes que j'attendais énormément, qui étaient RTX Studio et RTX Voice. Studio est encore en développement, ouais. Je pense que ça devrait arriver d'ici la fin de l'année, ils ont annoncé des bêtas prochainement. Là aujourd'hui est tombé, la semaine dernière, est tombée récemment donc cette première bêta de RTX Voice, qui est un programme offert gracieusement par Nvidia, n'est-ce pas? Et qui fonctionne pour plein de choses, mais surtout une, modifier votre voix. Et ça, c'est bien.
Alors, modifier comment ?
Voilà, Kezako. C'est un module NVIDIA, donc créé par NVIDIA, qui est un module qui est censé gérer par intelligence artificielle, qui est intégré à la carte graphique via ce petit programme, et qui permet de supprimer tous les sons ambiants autre que celui qui est dirigé vers votre voix. Okay. Donc, votre micro, il va capter votre voix, mais pas ce qu'il y a autour. Donc, alors comment ça marche? Très simplement, vos cartes graphiques, ça s'appelle RTX, évidemment, mais c'est pas forcément que pour les RTX, j'en parlerai juste après. RTX Voice fonctionne avec un système donc d'intelligence artificielle, c'est du deep learning, de la même manière que ça fonctionne avec le DLSS, par exemple, qui est le petit système qui permet à l'intérieur de vos cartes graphiques de faire passer une image en plus haute résolution et ensuite de la rebaisser pour avoir une meilleure image. Donc si vous avez un écran plus petit, c'est bien pratique. Ou si vous voulez avoir un jeu plus beau et un peu plus fluide, ça upscale et ça downscale, donc ce qu'on appelle le downscaling en général. Là, pour votre voix, ça va analyser ce que vous dites, ça le fait passer dans l'IA, et l'IA va enlever tous les bruits autour. Alors, le truc un peu pratique, c'est que là, j'ai fait quelques tests, évidemment, le jour où c'est sorti, avec tous nos amis ingé-son et fanatiques de streaming, et amateurs de streaming, et techos de streaming. Le truc fonctionne quand même super bien pour une bêta. C'est assez surprenant. C'est-à-dire que j'étais en discussion avec un de nos auditeurs et un ami, le Papa Louf, donc Bastien, qui nous écrit souvent. J'avais la cuisine pas très loin. Et comme tu le sais, Yann, un mixeur, ça fait beaucoup de bruit. Ça fait vraiment beaucoup de bruit, un mixeur qui s'active à 19h30.
Oui.
Surtout quand c'est un gros mixeur. Il n'entendait rien. C'est-à-dire que j'étais en train de parler, il y avait le mixeur qui était à donf, mais vraiment à donf. Juste après, il y avait l'aspirateur qui était juste à côté.
Et il n'y a aucun moment où ta voix s'est retrouvée avec ce qu'on appelle une aqua assez violente.
Alors,
c'est-à-dire
y a une déformation. Voilà. Ça dépend des bruits. Ça dépend des bruits en fonction de. Alors là, je ne l'ai pas activé sur mon enregistrement pour avoir un enregistrement tout à fait propre. Je voulais pas tenter le diable parce que Audacity, Mumble, ça ne sont pas encore forcément des programmes officiels. Ils ne sont pas forcément des programmes supportés de base, mais ils ne sont surtout pas officiellement supportés. Donc c'est un peu, je veux pas tenter le diable et foirer un enregistrement parce que je l'ai utilisé, c'est encore une bêta évidemment. Mais de base, vous pouvez chercher une vidéo, je vais vous mettre le lien dans la page épisode, vous l'aurez. C'est même Yann qui le fera parce que c'est lui qui fait les mises en page épisode.
Tant que tu mets le lien dans le conducteur, moi ça me va.
Voilà. Il y a un YouTuber qui s'appelle Barnacles. Alors, je crois que c'est Barnacles, quelque chose comme ça, Barnacles.
Okay.
Donc ça s'écrit Barnacules, si vous voulez, qui est un streamer et un YouTuber assez orienté tech, qui est plutôt cool. Il a fait un test le day one, premier jour, il a fait un test avec un ventilateur de garage. Donc tu sais, c'est ces gros ventilateurs ronds que tu mets au sol par exemple, qui font soufflerie en fait, qui sont assez violents. Qu'il avait dirigé vers son visage et donc son micro, et à côté il avait un maillet. Et il tapait sur son bureau et il parlait avec le vent sur le visage et le maillet. Et ça fonctionnait extrêmement bien. C'est-à-dire qu'on n'entendait pas le marteau, on n'entendait pas le vent sur son micro. Donc là, j'ai fait des tests avec le blender, l'aspirateur, quand je tape sur ma table. Il y a une déformation puisque l'IA vient de se lancer, donc elle n'a pas encore récupéré suffisamment d'infos sur ta voix, sur les habitudes sonores, en fait, sur l'ambiance sonore générale de la pièce. Le petit point qui me questionne encore, et j'ai pas encore eu le temps de bien regarder ça, c'est quel type de données est renvoyé à Nvidia pour le deep learning. Apparemment, ce serait pas des enregistrements vocaux directs, parce que ça, ce serait pas possible. Par contre, ce sont des données de traitement. Il faudra se pencher là-dessus. Alors, tout le monde s'est pas encore penché là-dessus. Niveau réseau, j'ai pas regardé la charge trop, ça a pas l'air non plus extrêmement oufissime niveau charge, mais ça demandera évidemment de quand même de se pencher un petit peu là-dessus prochainement.
Bien sûr.
Alors c'est pour qui ? J'y reviens maintenant. Toutes les cartes RTX, donc les séries 20, 2060, 2070, 2080, même fonctionnent de base avec, mais les GTX fonctionnent aussi, donc les 1060. Les 1060 Super, les 1070, elles fonctionnent parfaitement avec. Les 1050, les 1650, pardon, les 1660. Et les 10, les séries 10, c'est un peu plus compliqué parce que là, on part sur les anciennes GTX de série 10. Là, par contre, on a une baisse. C'est-à-dire que sur toutes les GTX, on a pu tester jusqu'à la 970 et la 960. Donc, ils sont des cartes qui ont désormais 6 ans. Parce qu'on dirait pas, mais ça fait déjà 6 ans que la 970 et 960 sont sorties. Les 980, ça tourne, mais ça va manger de la perf. Et pas qu'un peu. Sur une 980 Ti, on est sur de l'ordre de 10%. Sur les 960, en fonction qu'on ait une version 6Go ou pas, ça va bouffer jusqu'à 20% des performances de la carte en jeu. Ce qui est assez important. Même trop important pour des cartes qui sont déjà vieillissantes. Sur une 970, on est de l'ordre entre 10 et 15% en fonction de la charge du jeu en face. C'est quand même important. C'est pas forcément un programme qui est nécessaire tout le temps quand tu joues. Mais si tu es streamer et que tu as une 970, oui, là par contre, il va falloir penser à changer de carte graphique. On est d'accord. D'autres petits trucs sur ce système RTX, vers qui ça se destine en fait. Ça se destine avant tout évidemment pour les streamers. Parce que avoir un coupe bas, avoir un noise gate, ce genre de choses, enfin coupe bas, noise gate, c'est à peu près la même chose, mais avoir des programmes ou des tables de mixage, des petits programmes pour tenir sa voix, c'est bien, mais c'est du travail. Et c'est aussi un investissement. Parfois, tous n'ont pas envie de s'acheter un micro hors de prix non plus. Parce que tu peux streamer avec un casque, c'est pas un souci, on l'a fait pendant des années. Là, ça te permet de pas avoir de bruit ambiant si t'as quelqu'un d'autre dans la maison, si t'as ton chat qui fait l'andouille, ou si t'as ton chéri ou ta chérie qui est en train d'essayer de vivre sa vie dans le même appart, tu vois. Surtout en une période comme la nôtre, c'est plutôt pas mal. RTX Voice permet de créer vraiment un mur d'isolation entre ta voix et le reste de l'appartement ou de la pièce dans laquelle tu es. Donc c'est vraiment cool. Il va falloir attendre, évidemment, je pense. Là, on est aux prémices de ce que RTX Voice peut faire. Il faudra attendre, je pense, quelques mois pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. C'est encore une bêta. C'est pas. Ça supporte quand même pas mal de programmes. Hein. Ça supporte OBS Studio. Ça supporte les logiciels de stream, évidemment. Ça marche très bien sur Teams. Le petit problème que moi j'ai eu lors de notre réunion sur Teams, Yann, était surtout dû au fait que ma table de mixage s'est lancée après RTX Voice, donc ça avait créé un souci. Ça aussi, c'est une histoire de priorisation de driver et de lancement de programme, donc ça, c'est un truc qui sera réglé avec la bêta aussi. C'était pas forcément supporté, mais ça marche bien. Ça marche excellemment bien sur Discord. Et ça, c'est ouf, parce que quand tu es en train de brailler sur un raid depuis 2 heures et que j'ai la télé derrière, parce que la patronne aimerait bien regarder la télé aussi, si tu veux, et que moi, je suis en train de faire mes missions, en train de faire un bordel, on va wiper. C'est quand même vachement pratique. Surtout que Discord est assez sensible de ce côté-là, donc c'est plutôt bien. Et après, ben, c'est qu'est-ce que ça va être à l'avenir ? Ce sera plus d'IA qui va travailler dessus, plus de résultats, plus de facilité, et donc moins d'effets de ce que tu as, de ce qu'on appelle la quoi, ou les effets de perturbation et de découpage de la voix qui fait que tu as l'impression d'être sur une ligne électrique. Et puis demain, ce sera demain, je veux dire l'avenir, hein, bien sûr. Mais demain, ce sera RTX Studio. Donc, je vous en avais déjà parlé. C'est là aussi, c'est un programme de deep learning de Nvidia. Donc, c'est une IA qui va vous créer derrière votre webcam un fond vert numérique pour pouvoir intégrer n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, bah, si vous voulez, bon, il y a des trucs comme Zoom qui le permettent, mais vous n'utilisez pas Zoom, s'il vous plaît, arrêtez.
Skype permet de faire
Zoom.
La même chose. Enfin,
Skype permet de
la
le faire.
La plupart aujourd'hui des outils de visioconférence ont évolué pour voilà. permettre de flouter le fond, voire même de remplacer le fond par une image.
Voilà, voilà. Ce que va proposer RTX Studio, c'est beaucoup mieux dans le sens où c'est un fond vert créé, donc annulé en temps réel. Mm-hmm. Donc vous pouvez bouger facilement, et vous pouvez surtout gérer à partir de ce... Vous pourrez, normalement, à partir de ce programme, gérer vos différentes scènes, les intégrations fond vert sur vos plateaux de stream, sur un jeu, sur n'importe quoi, sans avoir à passer par une caméra, plus un fond vert, plus un programme derrière qui va annuler le fond vert.
J'allais dire, c'est quasiment un concurrent d'OBS et d'XSplit à ce stade.
Alors Nvidia permet déjà de streamer, Nvidia permet déjà de capturer du jeu, donc oui, si tu veux, quelque part, c'est un concurrent, ça peut être à terme un concurrent d'OBS et d'XSplit. Le but pour l'instant de ce qu'on peut voir, c'est que RTX Voice comme RTX Studio sont développés justement en partenariat avec XSplit, avec les développeurs d'OBS. Ils travaillent là-dessus pour justement permettre Nvidia a pas vertu à devenir un producteur de solutions professionnelles médias et streaming, en fait. C'est pas un truc qui les intéresse. Eux, ce qui les intéresse, c'est fournir de la technologie améliorant les choses.
J'allais dire, eux, leur but, c'est de faire avancer la tech pour faire avancer l'industrie et ensuite profiter pour construire d'autres choses par-dessus. Quoi.
Oui, enfin, s'ils avaient vraiment voulu faire avancer la tech, j'ai envie de te dire qu'on n'aurait pas des 2080 dans cet état-là, mais... Comme Intel, à un moment il faut arrêter de perdre la raison et investir massivement dans la R&D pour faire avancer les choses.
C'est pas idiot d'investir justement des champs un petit peu parallèles pour en tirer des revenus là aussi parallèles et pour faire évoluer un petit peu les choses, rendre le streaming plus accessible ou rendre certaines opérations de streaming plus accessibles.
Ça c'est un très bon mouvement.
Et donc elle large ta clientèle tout simplement. Donc ça c'est
tout
un autre. C'est un autre, comment dire, un autre point de vue, parce que si tu offres des solutions qui sont quand même pas nécessairement exclusivement pour les cartes graphiques RTX, ça tourne également sur GTX, mais en gros, c'est quand même de dire vous allez avoir un avantage particulier à avoir une carte graphique Nvidia, ça va vendre de la carte graphique Nvidia. Voilà.
Ah
donc
oui,
ça et ça c'est dans l'intérêt total de Nvidia. Donc
oui, mais ce qui serait dans l'intérêt des consommateurs, ce serait qu'Nvidia se sorte les doigts comme Intel pour sortir autre chose que des voilà.
Mais les entreprises n'ont pas l'intérêt des consommateurs comme fin en soi, elles l'ont uniquement comme moyen d'atteindre un bilan trimestriel plus élevé.
Je ne viendrai pas vous parler de parce que je vous ai parlé d'Intel, je viendrai pas vous parler des nouveaux processeurs Intel parce que c'est juste la sixième fois que c'est toujours la même chose. Donc on en aura.
Comet Lake, c'est ça. Comet Lake.
Oui, Comet. Ça fait bon voilà.
Bon, donc, je suis pas assez triste d'avoir je vais en parler maintenant. Du coup, d'avoir commandé une nouvelle machine qui soit pas sur la toute dernière version, étant donné que les pads d'Intel, les tics et les tocs d'Intel se font extrêmement modestes, je dirais. Alors. Oui, car oui, j'ai commandé, chères auditrices, chers auditeurs, j'ai commandé une nouvelle machine. Je ne vais pas vous en révéler l'identité tout de suite. Sachez simplement qu'avec la situation actuelle, mes besoins en termes de compute et de puissance, et notamment à la maison, se sont rendus extrêmement renforcés, que je bosse énormément depuis chez moi, certes, mais qu'en plus, là, j'en ai de plus en plus besoin, et pour des projets qui ont lieu en cours maintenant, et pour des projets qui vont naturellement se dérouler et également pour des trucs pour la rentrée. Autrement dit, c'est le bon moment de commander une nouvelle machine avant que l'économie se casse la gueule. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et avec ça, j'ai commandé un accessoire. Je me suis fait un petit peu plaisir. Et j'ai commandé, j'y pensais depuis un moment, le Magic Trackpad d'Apple. Donc, un trackpad pour ordinateur de bureau qui fait quand même la moitié de la taille d'un Magic Keyboard. Vraiment, la même hauteur et la largeur équivalente à peu près à la moitié d'un Magic Keyboard. Donc, un très beau trackpad. trackpad qui rivalise de beaucoup avec évidemment ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, y compris sur les plus grands MacBook Pro, c'est encore plus grand. Et du coup, tu peux vraiment y poser toute ta main, c'est incroyable. Alors, la question qui peut se poser, c'est, mais Yann, tu as une souris, regarde là, tu as une souris, hop, elle clique, incroyable, fantastique. Eh bien, c'est justement ça le problème, c'est qu'elle clique. Parce que avec un trackpad, les amis, et depuis notamment qu'Apple a introduit il y a quelques années maintenant le touch to click, c'est-à-dire vraiment tu l'utilises comme si c'était un écran tactile, tu ne presses même pas pour entendre. Alors là, on peut l'entendre hein, si je presse vraiment comme un malade dessus, c'est un retour haptique, on va l'entendre. Attention, les amis, très légèrement. Je vais peut-être booster un peu le micro.
Ce qui est ouf, c'est que tu n'entends même pas ma souris qui clique de ouf à côté pendant depuis 3 minutes en fait. Là, je l'entends.
Voilà, j'ai un peu boosté le microphone, je reviens un petit peu à un niveau normal. Donc voilà, ça c'est quand je clique et là j'ai vraiment mis le micro devant. Alors que pour la souris, je peux te garantir, elle n'était pas devant. Là c'est une autre souris, incroyable, super.
Ah oui, c'est
et pourtant là elle était à bien 20 cm du truc. Là j'ai vraiment collé à 1 ou 2 cm pour que tu l'entendes le trackpad. Et j'ai boosté le volume. Donc ça c'est d'une part, déjà si je clique comme un bourrin, ça s'entend beaucoup moins. Et en plus, si j'y vais vraiment en mode touch type, ce dont j'ai l'habitude parce que j'ai un MacBook depuis toute éternité, c'est non seulement confortable, mais en plus ça ne s'entend pas durant les podcasts, ce qui fait que quand je lance une virgule, par exemple si je lance eh bien j'ai pas à retirer au montage ou à ne pas retirer quand je suis trop feignant le petit clic qui vient juste avant. Et ça, ce genre de choses là, c'est des améliorations graduelles de mon setup que je trouve vraiment très utile. Large surface donc de ce trackpad,
immense.
Ce que je conseillerais à tout le monde, à la fois parce qu'il est effectivement très grand et en même temps là je suis sur un setup à deux écrans, c'est d'augmenter la vitesse de défilement, en tout cas la vitesse d'accélération du curseur sur le trackpad pour éviter d'avoir à faire trois gestes successifs pour arriver jusqu'au bout du deuxième écran. En accélérant à peu près aux trois quarts, vous pouvez assez facilement vous rendre d'un côté à l'autre, c'est très confortable et je dirais même justement c'est moins fatigant à l'usage que d'avoir une souris de la déplacer et c'est moins, je trouve ça moins imprécis en fait. Je trouve ça beaucoup plus pratique et notamment je trouve ça beaucoup plus pratique sur toutes les opérations qui nécessitent du geste tactile. Il y en a un paquet qui ont été introduits avec macOS. Alors certes, la Magic Mouse d'Apple permet avec deux doigts de faire des balayages à gauche, à droite, en haut, en bas, et notamment de changer de space quand on est en plein écran et de changer ce qu'il y a dans le plein écran ou ce genre de choses. Mais enfin, c'est quand même plus confortable de prendre quatre doigts et de confortablement faire le tour en haut, en bas, à gauche, à droite et de changer les choses de cette manière-là. Même chose pour le scroll, même chose pour... Enfin voilà, tous les gestes possibles et imaginables, ils sont quand même beaucoup plus confortables.
Petite question, oui. Yann, j'y pense parce que d'un coup je me dis c'est quand même intéressant ce truc-là, j'aime bien. Les clics droit, clics gauche, comment ils fonctionnent exactement?
Alors comme sur MacBook, c'est-à-dire que tu vas faire soit c'est avec deux doigts, le paramètre par défaut, c'est que tu utilises deux doigts, tu tapes avec ou tu presses pour faire un clic avec et le clic de deux doigts, c'est un clic droit. Voilà, simplement. Donc c'est juste un coup à prendre.
D'accord, c'est un clic.
Et tous les autres clics, c'est un doigt.
Pour le clic droit.
C'est ça.
D'accord.
C'est exactement ça. Et il n'y a pas de clic milieu, même si techniquement le press, je ne sais plus comment s'appelle cette technologie-là, parce qu'en plus ils sont en train de la retirer. L'équivalent du 3D Touch avec le retour haptique, donc en pressant longtemps jusqu'au moment où tu obtiens un deuxième retour haptique qui te dit là tu as vraiment pressé fermement, celui-là peut servir dans certains cas d'équivalent clic milieu selon ce qui a été paramétré dans les différentes applications. Donc ça c'est un cas extrême qui est souvent, qui est assez peu utilisé, qui peut être utilisé par exemple, je ne sais pas, dans un programme de traitement de texte, tu fais un long clic sur quelque chose pour avoir par exemple la définition d'un mot. Ça peut être utilisé un petit peu comme ça. Je regarde s'il y a des options alternatives. Voilà, le clic secondaire, c'est soit cliquer ou toucher avec deux doigts, soit cliquer dans le coin inférieur droit, soit cliquer dans le coin inférieur gauche. Les trois options que propose macOS avec le Magic Trackpad pour ce qu'ils appellent le clic secondaire, c'est-à-dire le clic droit. Moi je m'y suis fait vraiment
bien que ce soit compatible avec Windows pour tester
au clic de doigt. J'avais suivi la chose vraiment quand le modèle original de Magic Trackpad était sorti, j'ai pas suivi vraiment de potentiel support et de potentiel driver qui serait sorti pour Windows après coup, mais de ce que j'en ai compris en gros ça marche, mais évidemment tous les gestes ne sont pas supportés et ça marche comme un pointeur, comme un trackpad on va dire entre guillemets de base, avec ce que Windows en comprend de base sans aucune configuration. C'est comme ça que je l'avais j'avais compris en tout cas. Évidemment, il se recharge avec un port Lightning, ce qui est chouette. Ce qui, encore une fois, augmente le nombre de trucs étranges que tu peux faire avec un port Lightning. Parce que je rappelle, tu peux également brancher avec un port Lightning. Bah, par exemple, tu peux tenter de recharger. Je ne l'ai pas essayé, je ne sais pas si ça lui donne de la batterie. Mais je pourrais essayer de charger mon Apple Pencil avec mon trackpad.
Ah oui, c'est vrai que je pourrais... Pencil, du coup, ça, c'est génial ça.
Non, c'est pas compatible avec. C'est pas compatible avec. Non, j'ai juste, il y a un port Lightning. Ce qui signifie
ça,
que
dommage.
Tu peux tenter de pomper l'énergie de l'un avec l'autre. J'ai pas testé, mais vu que c'est le même port, peut-être.
Ça aurait été bien que ce soit compatible en fait.
Ça aurait été chouette, d'autant que c'est une grande surface effectivement. Après, je pense qu'ils sont plus qu'heureux de te vendre un iPad à la place pour te dire regarde, c'est ta surface sur laquelle tu vas voir ton dessin et tu vas le faire en tablette graphique plutôt qu'un Magic Trackpad. Donc je suis d'accord avec
dommage,
ce que tu dis,
ça.
Mais c'est pas du tout un cas de figure qu'Apple a prévu là-dessus. Et c'est bien que t'aies posé la question du coup parce
que je voyais ouais. Ça vachement, tu vois, ça pouvait te servir comme une Wacom ou.
Alors, y a
une
peut-être
vraie surface tactile pour avoir le stylet dessus et pouvoir
peut-être.
Par exemple écrire, dessiner, prendre des notes, annoter des trucs depuis ton MacBook ou ton
peut-être
iMac.
Que des gens ont développé des stylets capacitifs et ensuite ont trouvé un moyen d'intégrer ça dans Photoshop ou ailleurs, j'en sais rien, c'est pas mon domaine de travail pour le coup, moi je suis dans l'audio et dans le texte, je suis pas vraiment dans le design graphique, mais là spontanément je pense que ce serait un pis-aller de faire comme ça, et un gros bricolage, j'encouragerais vraiment personne à aller dans cette direction. Qu'est-ce que je veux ajouter d'autre par rapport à ce Magic Trackpad ? J'aime bien l'angle d'élévation. En fait, il a à peu près le même angle d'élévation que le Magic Keyboard, donc un petit angle, mais un angle quand même sympa, qui permet de pas se niquer le poignet, en tout cas sur l'usage que j'en ai eu là depuis quelques jours, je trouve ça bien. La batterie va me durer très longtemps, il était arrivé il a probablement dû passer 15 ans en stock, vu que je pense pas qu'il y a 15 000 personnes qui en achètent en ce moment.
L'angle est un peu moins élevé que le premier trackpad, j'ai l'impression quand même.
Le Magic Trackpad 1 de Apple, celui qui
ouais.
avait des piles dedans.
Celui
oui, parce que tous les accessoires
étaient plus élevés. Ouais.
Tous les accessoires d'Apple qui avaient des piles à l'intérieur, donc il y avait le clavier, il y avait le trackpad. Bon, la souris c'est un autre cas de figure, mais ces deux-là, effectivement, avaient un angle plus important simplement pour accommoder les piles AA qui allaient dedans. Là, c'est plus du tout le même, c'est plus du tout la même problématique puisqu'il n'y a plus la possibilité de mettre de batterie dedans. C'est la batterie qui, de pile dedans, pardon. Il y a la batterie qui se recharge. Donc ils ont baissé l'angle et ils l'ont baissé vraiment sur toute la gamme clavier et trackpad inclus. Moi j'aime bien cet angle-là. Après évidemment c'est à chacun de se faire une opinion. Je vous dirais bien tester ça en magasin, mais je ne vous conseille pas d'aller en magasin. Donc testez ça avec votre imagination. Voilà, c'est mon petit conseil. Si vous allez en magasin, mettez un masque, prenez toutes les dispositions qui valent le coup. Prenez soin de vous, s'il vous plaît, et prenez soin des autres. Donc, ça, c'est ma petite parenthèse sur le sujet. Le prix, alors voilà, pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps avant de me l'acheter parce que le beau bébé m'a coûté 150 francs suisses, alias en France, c'est 150 euros. Je note tout de même que c'était le cas pendant très longtemps, le prix était différent quand il est blanc ou il est noir. Là, je l'ai commandé en blanc parce que la différence de prix continue d'être le cas en Suisse. Sur l'Apple Store suisse, c'est 180 francs suisses, pardon, pour ce qui équivaut à peu près à 180 euros pour la version noire. Tandis
oui,
que la version noire, ou plutôt gris sidéral en France, elle est également 150 euros, comme
ouais.
la version argent. Donc, évidemment, en France, faites ce que vous voulez, mais en Suisse, ne dépensez pas 30 balles de plus pour littéralement juste un coloris différent. C'est idiot et je n'ai pas fait ça parce que c'est déjà pas mal d'argent. Voilà. Moi, j'aime bien. Évidemment, à voir sur le long terme, mais personnellement, ça, vraiment dédié pour le travail et ensuite la petite souris avec son petit dongle pour le jeu vidéo quand je lance Steam, c'est vraiment le cumul des deux, à mon avis, est vraiment parfait. C'est un setup qui me plaît beaucoup et encore une fois, pour travailler, pour faire des podcasts et même pour éditer du texte, enfin je trouve ça personnellement plus confortable et plus précis qu'une souris. Ça amuse un petit peu moins le coude, les épaules et le poignet, j'ai l'impression. Donc je recommande chaudement le Magic Trackpad. Est-ce que tu as des questions encore à son sujet ?
Oui, mais c'est des questions. Alors, c'est des questions d'ordre ergonomique. Mm-hmm. Tu utilises toujours ton clavier pleine taille, toi ?
J'utilise toujours le Magic Keyboard, le Magic Keyboard bien tassé d'Apple.
Ouais. Ah, c'est le tout petit du coup.
C'est celui qui va qui a les touches du clavier, enfin, c'est celui qui s'arrête à la touche entrée quoi. À droite.
Oui, voilà, c'est ça, c'est
ouais,
le.
Ouais,
ouais.
Parce que le Logitech, je l'ai renvoyé à Logitech.
Oui, non, ça
c'est un exemple de test.
Je savais pas si t'avais un Magic Keyboard de grande taille en fait. C'est un full
non,
size en fait.
Alors j'ai un peu considéré la chose, mais je me suis dit quitte à avoir un autre clavier, à avoir un clavier complet, je pense que je prendrais un clavier plus large, probablement. probablement en filaire et ou alors s'ils ont le bon connecteur de Logitech qui est sympa, probablement mécanique, mais pas un top, mais pas un top of the line non plus. Je verrai ça quand ce sera possible de faire soit des commandes non indispensables sans prendre trop de risques, parce que là pour le coup désolé mais ma nouvelle machine étant donné que c'est un outil de travail c'est pas le plus indispensable du siècle, mais ça reste quand même important. Et tandis qu'un clavier pour jouer, là, je vais vous dire non. Ça vaut pas le coup de faire déplacer un livreur pour ça.
Non, parce que j'ai pensé, parce que je sais pas comment fonctionne ton setup, si ton clavier et ton Magic Trackpad sont très éloignés ou pas.
En podcast, oui, en temps normal, non.
Voilà, en temps normal, parce que j'ai vu récemment passer, justement, quand tu me parlais de la, en off du Magic Trackpad, je l'ai commandé, de ça, je me suis dit, normalement, si t'as un Magic Keyboard, en fait, maintenant, il existe des coques.
Oui, qui mélangent.
Qui permettent de joindre les deux, en fait.
Oui. Non, moi, j'aime bien la modularité.
L'un côté de l'autre.
J'aime bien la modularité, parce que je peux les aligner, et vraiment, en termes de châssis, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, tu peux vraiment les mettre l'un à côté de l'autre, et t'as vraiment l'impression que c'est un seul device, quasiment. Mm-hmm. Mais j'aime bien la possibilité, justement, d'avoir clavier, micro, trackpad, c'est ma situation actuelle. Et après, écran gauche, écran droit. Comme ça, ça me permet d'avoir la main droite sur la souris et faire des trucs, genre lancer une virgule, etc. Et la main gauche sur le clavier, si jamais je dois taper quelque chose en urgence, par exemple, là, on est en plein enregistrement d'émission. Si je dois noter le conducteur pour y ajouter quelque chose, pour dire bah là point de montage à 35 minutes 22 j'ai roté très fort dans le micro c'est dégueulasse ce genre de choses, voilà. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup à mon avis d'avoir les deux en séparé et d'avoir ce setup en fait extrêmement modulaire et modulable de travail tout simplement. Voilà.
C'est un produit qui a l'air vraiment intéressant. Encore une fois, je suis un peu triste de ne pas pouvoir m'amuser avec. On verra plus tard.
En attendant, j'ai l'impression, mon cher Franck, qu'après cette virgule, on passera d'un périphérique de pointage à un périphérique d'entrée. C'est donc l'heure du non-dossier. Nous n'avons pas de dossier pour aujourd'hui, mais c'est pas grave, on a plein de choses à traiter. Toi, Franck, tu as décidé de nous parler clavier, et tu vas commencer par ton amour, ton envie, c'est Léopold.
Mon nouvel amour, alors générique, contrôle tout, Yann, s'il te plaît.
Oh là là. Attends, voir, je l'ai ici dans le coin, regarde, hop. Voilà. Incroyable.
Alors oui, j'ai acheté un nouveau clavier. Pourquoi? Parce que je peux très cher. Déjà.
Parce que je peux.
Because why the fuck not? Non, mais oui, c'est quelque chose. Alors j'en avais déjà parlé. Ah. J'en ai parlé dans Contrôle Tout dans les précédentes émissions. On est un peu en retard parce qu'avec le confinement, en fait, le télétravail c'est bien, mais quand t'as Zect qui est débordé de taf et le futur invité, le prochain invité. Qui est aussi débordé de taf, c'est un peu compliqué. Donc on a un peu laissé de côté Contrôle Tout, mais on revient bientôt, je vous le promets. Donc j'ai acheté un clavier. Et j'ai pas acheté un clavier dans une boutique, parce qu'il était déjà chez quelqu'un de la communauté clavier du Discord sur lequel je traîne depuis bientôt deux ans ou un an et demi. J'ai acheté un Léopold FC980M. Alors, sous ce nom barbare, bon, déjà la marque Léopold, c'est une marque coréenne, si je dis pas de bêtises, qui fait partie des meilleures marques de claviers industriels, entre guillemets, au monde. Pourquoi industriels? Parce que c'est des claviers qui sont faits donc en série. Donc c'est quand même, c'est pas des claviers, c'est pas du custom, on n'est pas dans un truc que vous allez devoir construire vous-même, c'est un clavier qui est fait en usine. Mais Léopold, c'est du très 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 haut niveau. Ils ont deux types de claviers, ils ont les versions M et les versions C. Les versions M sont des versions mécaniques, donc avec des switches Cherry MX de la marque Cherry. Ouais. Donc les switches mécaniques que vous trouvez dans tous les claviers mécaniques du commerce en gros. Et les versions C sont faites en Toprey. Donc Toprey, je vous en avais parlé, c'est ces trucs tactiles qui fonctionnent par activation magnétique.
Et
par
que tu kiffes, hein. On rappelle ton adresse email, kiffeur@toprey.com.
C'est vrai que tu m'as fait cet email.
Je me souviens plus quelle est exactement la casse, s'il y a des tirets ou des...
Non, c'est en un seul mot, je crois, kiffeur@toprey.com.
Envoyez-moi.
Mais oui, je kiffe le Toprey, mais j'utilise plus mon Toprey actuellement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques mois, enfin il y a un an, un peu plus d'un an, je suis passé au Cherry Mix Black en linéaire. Dans sa version, ce qu'on appelle retool, c'est-à-dire les nouveaux batchs de touches qui ont été refabriqués avec des nouveaux moules. Et c'est devenu un grand amour. C'est une très grande histoire d'amour. Et donc, du coup, ben, je voulais un nouveau clavier en MX Black, mais je voulais au départ faire un truc custom. Malheureusement, avec le confinement, l'équipe qui fabrique ce clavier custom, très très cher aussi, hein, qui s'appelle le TX-CP, n'a pas lancé de nouveaux groupes d'achats, nouvelles achats groupés, de nouvelles, ce qu'on appelle un IC et un GB, c'est-à-dire si tu te marques comme intéressé, tu t'inscris pour le groupe buy, et quand le groupe buy est ouvert, on te prévient que tu peux venir acheter, mais qu'il y a des slots limités, en fait.
Oui, ils peuvent pas lancer la production sans une certaine demande.
Il y a ce qu'on appelle en MOQ, c'est-à-dire un minimum order quantity, c'est-à-dire un minimum de quantité achetée. Mm-hmm. Donc quand ils ont atteint le MOQ, ils savent que derrière, ils vont pouvoir lancer la production, et après, bah, ça prend des mois pour avoir son clavier. C'est pareil pour les keycaps et tout ça. Yes. Ça fonctionne beaucoup comme ça pour éviter justement que les gens perdent de l'argent, les fabricants. Parce qu'après, il faut passer contrat avec des fabricants de keycaps, des fabricants de PCB, des usines qui vont traiter l'aluminium ou ce genre de choses. Donc là, j'ai pris un Leopold. C'est un format un peu particulier. Je t'en avais déjà parlé, Yann. C'est le format 1800, ce qu'on appelle les 1800 ou les 1800. C'est-à-dire que c'est toutes les touches du clavier. Donc c'est un clavier complet. Avec toutes les touches F, tout le pavé numérique, les flèches et tout ça. Mais ça a la taille d'un format TKL, c'est-à-dire un clavier qui s'arrêterait aux flèches. Comment ils font ? Bah, très simplement, c'est-à-dire que la séparation entre Enter et le pavé numérique, où normalement il y a 6 touches avec Page Up, Page Down, Insert, Del, et puis il y a Scroll Lock, et puis je sais plus quelle touche maintenant, parce que mon cerveau a oublié. Ben ces touches-là, elles sont pas placées là. Tu as Del, Page Up, Insert, Del, Page Up, Page Down qui sont rabattues à droite, juste au-dessus du pavé numérique.
Ouais, je vois ça. Ouais.
Et les deux dernières touches qui manquent, puisque du coup il manque plus que 2 touches. Elles sont intégrées dans des raccourcis que vous faites avec la touche fonction du clavier. Et donc du coup c'est un clavier qui est réduit, donc c'est vachement mieux niveau ergonomie, notamment pour les syndromes carpiens et les problèmes d'épaule. Et ça, c'est très, 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 très confortable.
Et dans certains cas, ce que je vois, c'est que les touches directionnelles, donc en bas à droite du clavier, peuvent être légèrement offset du reste.
Oui, alors ça, c'est un truc, on en a parlé avec CAF, parce que CAF, il ne supporte pas le 1800, parce que justement, les flèches ne sont pas alignées.
Elles sont plus basses que la barre espace, pour donner une image mentale.
Voilà, elles finissent plus bas que la barre espace, et donc elles ne sont pas alignées avec le shift droit, elles ne sont pas alignées avec le 1. Normalement, j'ai des OCD d'alignement. Mais étant donné que les flèches, non mais c'est débile, mais étant donné que les flèches, elles sont séparées par un tout petit morceau de plastique du case qui les sépare du reste.
Oui, une sorte de liseré.
C'est un liseré en plastique en fait. Au lieu d'avoir un grand espace qui est vide sur 80% de la hauteur, là c'est juste un liseré qui sépare les deux endroits pour pas avoir à tripoter quand tu fais Enter, tu vas toucher la touche 5 à côté, ça peut être désagréable. Ouais. C'est ce que j'ai sur mon IM96 que j'avais acheté il y a un an et demi. Que j'aime beaucoup, hein. Mais j'avais ce problème de vouloir appuyer sur la flèche pendant que je faisais quelque chose, et j'appuyais en fait sur 1, ou j'appuyais sur Shift, ou j'appuyais sur Enter parce que je faisais pas gaffe. Et quand tu veux aller vite, le fait de pas avoir cette séparation entre les trois rangées spécifiques entre les alpha avec les lettres et Enter, les flèches et les alpha numériques, enfin les chiffres, c'était très dérangeant au bout d'un moment, surtout quand j'ai besoin d'aller vite. Donc je me suis pris ce clavier là, mais je l'ai pas pris, donc je vous ai dans le commerce, je l'ai acheté à un ami qui s'appelle Purée, qui vient du Discord MKBDFR, donc la communauté mécanique, Mechanical Keyboard France. Vous trouverez le site dans la description. Et Purée, il est venu me voir parce que justement, bah, j'étais tout triste sur le Discord d'avoir raté mon groupe buy, vraiment. Et il me fait, bon, bah écoute, mec, il vient me voir en privé, il me fait, écoute, mec, j'ai un 980M à la maison que j'avais acheté il y a un moment, qui est un MX Red, mais si tu veux, je peux te le modder. Alors je lui dis, fais-moi un devis pour tes services. Parce que Purée fait des services de modding. C'est l'un des meilleurs modeurs du monde, hein, juste pour vous dire, dans la communauté internationale, ce mec est une légende. Il fait un travail exceptionnel, j'en parlerai après. Mais et du coup, j'étais là, bah, vas-y, fais-moi un devis. Et j'ai vu le tarif du devis, j'ai vu le tarif global, c'est-à-dire clavier plus devis. Et j'ai réfléchi à peu près 45 secondes. Parce que le Leopold 980M, on le trouve pas en France. On le trouve très difficilement en Europe. Et c'est difficile de trouver des claviers Leopold en Europe. J'aurais aimé que Keyboard Company, qui est l'un des meilleurs importateurs en Europe, qui est en Angleterre, qui fait du Philco, qui fait du Mathias, qui fait du Topré, c'est là-bas que j'avais acheté mon Topré, d'ailleurs, fasse du Leopold, ils n'en font pas pour l'instant. Donc du coup, j'étais un peu embêté, et avec le confinement, le seul endroit où je pouvais l'acheter de base, c'était aux États-Unis.
Ouais.
Chez My Keyboard, chez Mechanical Keyboard, justement. Mm. J'avais notre ami David, étant aux États-Unis, il m'avait dit, si jamais t'as besoin d'en prendre un, tu
en
me
cas,
dis...
En cas urgent de besoin de clavier.
Oui. En cas besoin de... Oui, bah, c'est un frère du clavier, lui aussi, parce qu'il en a acheté plusieurs. il me dit, en cas... Bon, si tu as un souci, tu me dis, je me fais venir à la maison et je te le renvoie. Incessamment sous peu. Ce qui m'aurait évité deux choses. Parce que le clavier, il coûte pas cher. Mm. Si tu l'achètes de base aux US, il te coûte $130, donc à peu près 120 euros. Mm. C'est pas cher. Pour un clavier de cette qualité-là, c'est pas cher. Mm. Le truc, c'est que derrière, tu as 50 à 70 euros de frais de port. Bon, déjà, ça fait mal. Mm. Genre vraiment. Mais une fois que c'est arrivé en Europe, tu as deux trucs qui tombent. Pour la France, hein, pas pour la Suisse. Mm. Les douanes. Donc, tu as des frais de douane parce que les mecs, ils vont essayer de le passer plus ou moins légalement. Mm-hmm. Donc, ça va certainement se faire choper. 90% du temps, ça se fait choper ce genre de truc. S'ils ont mis la valeur dessus, et s'ils ont mis la valeur dessus, c'est mort. Donc, tu te prends 40 euros de frais de traitement de dossier des douanes et tu te prends la TVA par-dessus. Mais la TVA en France, quand c'est d'un produit qui vient de l'étranger, la TVA n'est pas appliquée sur le prix du produit. Elle est appliquée sur le prix du produit plus le port, donc le prix global du produit. C'est qu'un clavier que tu payes 130 euros... Tu mets 50 ou 60 euros de frais de port, t'arrives, on va dire, le plus rapide c'est 70, donc t'arrives à 200 balles le clavier. Mm. Tu te tapes 20% de TVA dessus. Ce qui fait 40 balles de plus.
Ouais.
Plus, si jamais les douanes l'ont chopé dans un truc ou que les douanes décident de te mettre un tarif par-dessus, tu te prends entre 25 et 40 balles de plus. Mm. Ce qui fait que tu arrives à 240, 260, voire 280 euros pour un clavier qui en coûte 120. Ce qui est extrêmement difficile. Donc la purée lavée, dans sa Belgésie, j'allais dire natale, non, parce qu'il n'est pas né en Belgique, il est né en France, mais il vit en Belgique.
Dans sa Belgésie d'adoption.
Dans sa Belgésie d'adoption, ce beau pays qui me manque beaucoup, j'aimerais bien y aller vite. Donc du coup, il l'a modé. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, on a du Cherry MX Black encore, mais ce n'est pas du Cherry MX Black habituel. Parce que purée, étant donné qu'il a modé, il a mis dedans deux trucs. Du lubrifiant. Donc c'est non, mais ça te fait rire, mais les switches mécaniques doivent être lubrifiés.
Bien sûr.
Donc on utilise...
Ça commence à faire tchonk-tchonk, j'imagine.
Non, c'est déjà de base d'usine. T'as un tchonk-tchonk, mais ça améliore, en fait, c'est, si tu veux, c'est de l'ABS à l'intérieur.
Ça améliore la plastique. Course.
Ça améliore la course, ouais. Ça diminue le bruit. Et surtout, t'as pas cet effet de ce qu'on appelle du rattle, c'est-à-dire cette espèce de grattage quand tu enfonces la touche, que tout le monde a déjà dû sentir sur son clavier mécanique, sur certaines touches. Ça gratte un peu quand tu appuies lentement. Avec du lubrifiant, ça le fait plus. Et on utilise des lubrifiants industriels, alors ça c'est des trucs, là aussi, chacun a sa recette, purée a sa recette spéciale que personne connaît, mais de base, moi j'avais lubrifié déjà le mien, c'est... Non, mais oui, c'est la bonne purée de tonton purée, comme
on dit. Non, j'en ai même pas là, non, mais oui, effectivement, le lubrifiant artisanal de... Oui, très bien.
C'est un mélange de plusieurs lubrifiants industriels. Qui ont différentes... C'est vraiment des trucs industriels que tu trouves pas dans le commerce, quoi. Faut passer par des proxys, trucs comme ça. Ça ressemble à du yaourt. Pour être très sincère, hein, le lubrifiant comme le GP205 ou ou ce qu'on appelle la Tribosis 3204, tout ça, ça ressemble à du yaourt.
J'ai 8 ans d'âge mental, continue s'il te plaît.
Non, oui, je sais, ça te fait... Oui,
continue, ne te laisse pas distraire.
Non, mais donc purée, il a mis sa magie à l'intérieur, donc tu lubrifies l'intérieur du switch, tous les endroits qui frottent. Donc ça, c'est impressionnant. Et du coup, ensuite, il a rajouté un filmage. Et le filmage, qu'est-ce que c'est? C'est un truc tout bête, Yann. Tu vas voir.
Non, parce que là, je m'imagine quelqu'un qui emballe le clavier avec du papier plastique.
Non. Filmer un switch, c'est un truc extrêmement bête et qui change totalement la vie. T'as déjà tapé sur un clavier mécanique, Yann.
Oui.
Tu vois, quand tu appuies sur une touche, t'as l'impression que j'ai le nom anglais, mais t'as une espèce de wobble, c'est-à-dire que la touche, elle gigote.
Oui, un petit peu, si tu la caresses, entre guillemets.
Voilà. T'as cette espèce de gigotage. Le gigotage, ça vient de, en français, on dirait l'étamine, mais le stem, donc là où tu enfonces ton keycaps dessus, et le housing, donc la le corps du Switch, le corps extérieur du Switch, qui est composé de deux pièces avec des mâchoires qui s'emboîtent l'une sur l'autre.
D'accord.
Et c'est le haut qui va, qui a du jeu, parce que c'est deux pièces de plastique, donc le jeu va bouger un peu à droite, un peu à gauche, un peu en haut, un peu en bas. Ouais. Et la stem aussi, elle va bouger. Parce que ben, le haut bouge, donc l'intérieur bouge. Et donc, en fait, tu ouvres ton Switch, tout simplement, tu l'ouvres en deux, tu sépares le haut du bas, et sur le bas, tu vas mettre tout au bord, il y a une espèce de, il y a des films qui ont été créés, qui sont des petites pièces de plastique, très très fines, donc comme des films cellophane, des films plastiques, qui ont différentes épaisseurs et différentes couleurs, tu peux modder à peu près ce que tu veux, hein.
Ouais.
Tu peux commander ce que tu veux, et tu le mets dessus. Une fois que t'as fini ta lubrification de switch, d'étamine, ton ressort, tout est lubrifié, tout est bon, tu mets ton film, ça prend un temps fou parce qu'il faut le faire avec une petite pince à épiler de précision, donc les tweezers très fins, tu vois. Tu poses ça, tu refermes ton switch et ton switch ne bouge plus. La caisse, le housing ne bouge plus. Ce qui fait que ça va limiter donc ce wobble que tu avais ressenti. Donc ton keycaps ne bougera plus quand tu laisses appuyer. Ça limite les bruits. Comme il n'y a pas d'espace ouvert, puisque si ça bougeait, c'est qu'il y avait du jeu, ça limite la sortie du son. Et l'étamine ne bouge plus non plus. Donc la stem ne bouge plus, il n'y a plus rien qui bouge. Ton switch est fixé. Et après tu le soudes, hein, évidemment. Après, tu le soudes sur ta PCB. Mais du coup, tu ne fais plus de bruit avec.
D'accord.
Et c'est une merveille. Donc ça, c'est énormément de travail, parce que pour switcher, il y a 96 touches, si je dis pas de bêtises, sur le 96 ou 88, je sais plus. Non, il doit y avoir plus que 88, d'ailleurs 96 touches sur le 980M. Le problème, c'est que c'est ça prend du temps. C'est-à-dire que lubrifier 90 touches ou 80, même une centaine de touches, même pour un expert comme Purée, ça prend plusieurs heures.
C'est conséquent, oui.
Mais parce que ça a demandé de dessouder déjà les switches MX-RED qu'il y avait sur le clavier d'origine, d'usine, de mettre tous les switches sur une espèce de petit guide, en fait. C'est une petite plaque d'ABS transparent, enfin un truc translucide. Tu les ouvres chacun, tu les lubrifies, donc lubrifier chacun, ça prend à peu près 2-3 minutes chacun. Donc ça fait déjà 300 minutes. 3 minutes par truc, il y a 100 switches, 300 minutes. Après, il faut les filmer. Ça peut prendre 5 minutes si jamais tu t'en chies vraiment, ça peut prendre 5 minutes de plus par switch. Et après, il faut les ressouder. Faut les souder sur la PCB. Et c'est un enfer. Donc c'est Purée a mis une quinzaine d'heures de travail dedans. Parce que derrière, il a pas fait que ça. Parce que le Léopold, pour vous dire, le corps en lui-même, c'est pas un truc ultra fancy, hein. C'est un corps en plastique, par contre, c'est du plastique de très très haute qualité. Je suis très impressionné par les plastiques, il n'y a pas de jeu, c'est épais, c'est solide, il n'y a pas de bruit. Et la PCB en elle-même, donc le circuit imprimé, est fixé entre les switches et le circuit imprimé, il y a une plaque, ce qu'on appelle la plate. Normalement, ils mettent des plates en aluminium ou des plates en métal fin, ou on peut en avoir en laiton. Dans le custom, on a des plaques en laiton ou en acier qui sont un peu épaisses, justement, ou alors en acrylique ultra souple. Là, c'est une plaque en acier, carrément, avec une belle épaisseur. Donc du coup, ça limite encore le bruit et ça te donne une parfaite rigidité du clavier.
D'accord.
Et à l'intérieur, donc tu vois, c'est un sandwich, hein, t'as le dessus du case, donc qui est le tour qui va mettre les séparateurs entre les touches d'en haut et les touches de côté, tu vois, le séparateur classique. Ensuite, t'as ta PCB avec ta plate et tes switches. Et dessous, t'as le fond du case. Et le fond du case, chez Léopold, ils aiment beaucoup leurs clients, ils mettent une mousse à l'intérieur. Qui est une mousse un peu épaisse, mais pas ouf. Purée, il a rajouté à l'intérieur une couche de mousse pour limiter encore le bruit et l'isoler encore plus. Donc, ce que je peux vous proposer de faire, c'est que dans la page émission, vous aurez un petit fichier sonore en plus qui est un typing test.
Okay.
Vous allez kiffer, vous allez écouter comment c'était le premier jour avec un son un peu élevé et comment c'était quelques jours après que ce soit rodé, parce qu'évidemment, il faut roder les touches parce qu'elles viennent d'être lubrifiées, soudées et tout. Donc, il faut que le lubrifiant se répartissent proprement partout à l'utilisation et que les ressorts se fassent à l'utilisation de la main humaine, parce que ce sont des switches neufs, quoi. Et c'est une merveille. Voilà, c'est une merveille. Ça m'a coûté, pour vous dire, pour être très honnête, ça m'a coûté 200 €. Donc, c'est-à-dire, le travail de Purée était vraiment pas cher. Il est vraiment pas cher pour autant d'heures de travail, c'est ridicule. Je l'ai déjà dit, Purée n'était pas assez cher. Mais je suis au paradis, je suis en lune de miel depuis bientôt un mois et c'est fabuleux.
Heureux que tu kiffes en tout cas ton nouveau clavier.
Toi, tu utilises un autre truc, Yann.
Alors, rien à voir avec les claviers, rien à voir avec la productivité, rien à voir avec le confort
pour
de frappe, le confort au bureau, rien à voir du tout. Mais en ces temps confinés, et un petit peu en écho à quelque chose que j'aurais dû faire il y a très très longtemps, c'est-à-dire me remettre à une activité physique qui est autre que la marche, j'ai installé et j'ai commencé à utiliser une application qui s'appelle Strix Workout, qui est une petite application qui vous coûte seulement quelques euros et qui, une fois débloquée, fonctionne non seulement sur votre iPhone, mais peut fonctionner également sur votre iPad ou aussi sur votre Apple TV. C'est probablement un des usages les meilleurs parce que ça va se mettre sur le plus grand écran de chez vous, utiliser le haut-parleur de votre télé. Et donc, du coup, vous beuglez des ordres de vas-y, fais des pompes pendant 15 secondes, vas-y, lève les genoux, vas-y, fais la planche inversée, vas-y, fais des pédalages, etc., etc. Alors, comment est-ce que Strix Workout fonctionne ? Strix Workout, on va le prendre mot par mot. Hein. Strix, tout d'abord, l'idée donc de régularité, d'arriver à garder la chaîne d'événements successifs jour après jour et de chaque jour s'entraîner, ou en tout cas chaque jour que vous programmez un entraînement. Vous pouvez par exemple dire à Strix Workout, j'aimerais bien faire l'exercice 6 fois par semaine, 6 jours sur 7, ou 5 fois, ou 4 fois, ou une fois tous les 2 jours, ou etc., etc. Vous vous fixez comme ça une régularité, et ensuite, à vous de lancer l'application sur le support de votre choix, de sélectionner une durée en termes d'exercice. Alors ça commence par 6 minutes, vous pouvez monter à 12 minutes, puis ensuite il y a deux modes de difficulté qui sont encore plus exténuants. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va piocher parmi une petite réserve d'exercices un certain nombre qui va vous faire faire en succession. Donc il va piocher autour de 5 ou 6 exercices et il va passer de l'un à l'autre en aléatoire. C'est un petit peu, pour les gens qui connaissent les références jeux vidéo, c'est un petit peu le WarioWare de l'entraînement. C'est un petit peu le WarioWare de l'entraînement avec uniquement donc des exercices qui vous demandent simplement d'avoir peut-être un petit matelas au sol ou un petit tapis de yoga, quelque chose dans le genre, pour pas vous faire mal au dos. Mais derrière ça, tout utilise le poids de votre propre corps, donc vous n'avez pas besoin de poids, vous n'avez pas besoin d'appareillage. C'est idéal en période de confinement. Il suffit juste de pas vous ruiner le dos avec ça. Vous pouvez d'ailleurs désélectionner des exercices que vous ne voudriez pas voir revoir, ou pour une raison médicale ou une autre que vous ne pouvez pas accomplir, histoire que ça n'apparaisse pas justement dans la sélection aléatoire qui est faite. Et donc, comme je le disais, il pioche 6 exercices dans sa réserve, une quarantaine, cinquantaine d'exercices, et ensuite il passe de l'un à l'autre, il vous dit attention, tu as 3 secondes pour préparer, tu vas faire ça pendant 15 secondes, tu vas faire ça pendant 20 secondes, tu vas faire ça pendant 10 secondes, etc., etc. Si vous le faites tourner sur votre iPhone et que vous portez une Apple Watch également, il va se permettre de pouvoir également non seulement synchroniser un petit peu votre rythme cardiaque pour pouvoir l'enregistrer et vous dire ça c'est le type d'exercice qui t'a le plus fait monter dans les tours, mais en plus utiliser un petit peu justement l'accéléromètre et divers autres instruments de l'Apple Watch pour essayer de compter par exemple le nombre de pompes que vous avez fait, qui est quelque chose qui malheureusement ne sera pas actif si vous faites tourner Strix Workout sur votre iPad ou sur votre Apple TV. Donc attention à utiliser votre iPhone si vous souhaitez relever les données qui sont également liées à votre Apple Watch. Moi vraiment je recommande l'application Apple TV pour peu que vous ayez un petit peu de place devant la télévision. C'est vraiment la meilleure chose. Je m'en sers tous les matins. Oui, c'est plus pratique parce qu'encore une fois, c'est le plus grand écran. Donc c'est logique. Je m'en sers tous les matins. Je m'en sers tous les matins entre 6 et 12 minutes. Je viens de me remettre un petit peu à ça, donc forcément, j'ai pas la meilleure stamina du monde. Mais j'espère bien qu'avec un petit peu d'entrain et d'entraînement, ça finisse par porter ses fruits et je puisse au final commencer à dérouler ces exercices-là sur une plus longue durée. Après, pas de honte. Hein, l'important, c'est de se tenir en bonne santé. Encore une fois, vu la période actuelle, c'est un des meilleurs moyens qu'on a. Esprit sain dans un corps sain, de faire jouer les deux tableaux. On est un petit peu enfermés tous chacun chez soi. Ça vaut le coup non seulement effectivement de se distraire, de pouvoir travailler quand on le peut, mais de pas trop travailler non plus, et également de prendre soin de soi au niveau physique. Ça permet d'éviter de déprimer, en tout cas de limiter ce genre de choses. Et puis si jamais malheur de santé il devait nous arriver, autant qu'il nous arrive un malheur de santé en bonne forme plutôt que pas en bonne forme. Il faut aussi le voir comme ça. Évidemment, on se prépare toujours au pire en espérant le meilleur. Et c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là, je dirais, que ça m'a donné la motivation supplémentaire de m'y mettre tous les matins. depuis maintenant une semaine. Donc évidemment, la première semaine, c'est facile. Les suivantes, ça va être un petit peu plus compliqué, ne serait-ce qu'au niveau motivation. C'est pour ça qu'il faut se pousser. D'ailleurs, l'application peut vous envoyer une notification si après une certaine heure que vous délimitez, si vous n'avez pas encore fait d'exercice et vous dites hey, « t'as pas encore fait ton exercice, qu'est-ce qui se passe mon ami ?» on prend le temps, ça peut être que 6, 10, 12 minutes. Donc vas-y, fais ça. Il y a la possibilité de personnaliser des séries d'exercices selon ce que tu veux. Si tu veux faire des pompes pendant 10 minutes, tu peux très bien programmer un type d'entraînement spécifique à ça dans Strix Workout, donc c'est également possible. Et puis, si comme moi, tu es une brêle intersidérale et tu ne sais pas de quoi on parle quand on te demande de faire des fentes latérales ou ce genre de choses-là, eh bien, il y a un petit pictogramme animé qui te le présente justement sur l'écran, d'où l'intérêt de l'avoir sur l'Apple TV, parce que non seulement tu entends et tu vois ce qui se passe, mais en plus tu peux vraiment voir une estimation de l'exercice. Alors, je dis ça, mais évidemment, n'hésitez pas à garder également un œil sur vraiment, peut-être sur YouTube, sur ou avec un GIF, avec quelqu'un d'entraîné qui fait vraiment le geste pour être sûr de pas faire un faux mouvement, et au final de vous user un petit peu. Autre recommandation dans cette direction-là, qu'un pictogramme vous aidera pas nécessairement à faire, n'oubliez pas de vous étirer avant et après, parce que sinon vous pouvez aussi très facilement...
La blessure arrive très vite.
Voilà, le dos, les épaules, etc. Ça arrive très vite. On se dit, oh, 6 minutes, mon Dieu, je peux pas me faire mal avec ça. Si. Vous pouvez carrément vous faire mal avec ça.
Sans étirement, en 3 minutes, tu peux te faire une tendinite. Donc, c'est surtout les tendons, en fait, qui font très très mal.
Avec ce petit côté WarioWare de l'exercice à la maison, je trouve qu'il arrive assez vite, on va dire, à te faire sentir l'effort. Et c'est ça que je trouve assez intéressant dans Strix Workout, au-delà de sa simplicité et de son interopérabilité entre les différents appareils Apple, c'est que, en tout cas, de mes yeux de béotien en la matière, il a l'air efficace. Donc, voilà, il remporte, on va dire, mon approbation, non pas d'expert en sport ou en entraînement, parce que je suis tout sauf ça, mais en tout cas de débutant. Il remporte la palme du débutant. Et c'est peut-être déjà beaucoup pour vous qui nous écoutez. Et ce qui est intéressant avec Strix Workout, c'est qu'il se connecte très bien avec l'application du même développeur, donc Crunchy Bagel, qui s'appelle Strix. Strix, c'est une application qui vous permet de lister des bonnes habitudes que vous voulez prendre et de les cocher une fois que c'est fait. Et même si ces bonnes habitudes sont liées, par exemple, à des données que l'application peut repomper, bah, notamment dans l'application santé, à les comptabiliser toute seule. Par exemple, si vous avez une application à part pour dire voilà combien d'eau j'ai bu dans la journée, Strix peut aller regarder ça dans l'application santé si vous l'y connectez, dans l'application santé d'Apple, là où écrit votre application pour compter l'eau, et va vous dire bah tiens voilà ton objectif de boire 2 litres, il est rempli. Ou au contraire, il n'est pas rempli, ou il est rempli à temps. Pareil, là, Franck, tu as commencé à utiliser Headspace, qui est une application de méditation.
Ouais, sur ton conseil, surtout pour le sommeil pour l'instant, ouais. Mais oui, je suis.
Mais qui permet aussi de faire de la méditation et d'autres choses.
Oui.
Headspace te permet là aussi d'écrire tes données de méditation, qui sont, je crois que c'est des minutes de pleine conscience, c'est le terme qui est utilisé par Apple en France. Là-dedans, par temps d'exercice. Tu peux dire automatiquement à Headspace, écris-moi ça, comptabilise-le-moi dans l'application santé. Eh bien, Strix peut regarder ça, il peut dire, tiens, Franck a fait 15 minutes de pleine conscience aujourd'hui, il lui en manque plus que 5, il aura son objectif de 20 pour la journée. Et ça, c'est vraiment très pratique parce que ça te permet d'avoir l'œil là-dessus sans avoir à utiliser l'interface un petit peu confuse et fouillie de santé, et puis surtout pour te concentrer sur tes objectifs à toi qui peuvent recouper à la fois des trucs qui viennent de données qui sont enregistrées dans santé et puis des trucs qui sont complètement externes. Si tu te dis, bah, chaque jour, j'aimerais bien, lire un chapitre d'un bouquin, j'aimerais bien mater un film, etc., etc., c'est encore une fois un bon moyen de centraliser tout ça et de dire, voilà ce que je suis en train de faire, voilà ce que je veux suivre. D'autant que Strix, là, non seulement c'est disponible sur iOS, iPadOS, donc iPhone et iPad, mais c'est également disponible sur macOS. Et encore une fois, il passe par iCloud pour tout synchroniser. Donc, très très agréable. Pareil, tu peux prendre dans santé des trucs tout bêtes comme, tiens, est-ce que tu as couru avec ton Apple Watch aujourd'hui? Est-ce que tu as fait un entraînement, un exercice course? Et dans ce cas-là, tu peux le détecter, tu peux dire, effectivement, il a couru, donc bah voilà, mon objectif de course pour la semaine, il est rempli ou il n'est pas rempli. Donc Strix, vraiment idéal pour garder les bonnes habitudes, et notamment en temps de crise où je pense on en a bien besoin. Seule limitation de Strix, et je dis bien de Strix et pas Strix Workout, vous aurez compris que c'est deux applications différentes. Strix Workout, c'est vraiment pour vous donner des ordres et vous dire, faites l'exercice pour t'entraîner et pour gagner un petit peu de comment dire pour gagner un petit peu d'habitude de s'exercer, de faire des pompes, de faire des trucs dans le genre. Strix, c'est vraiment pour juste traquer, pour faire le suivi de vos habitudes, y compris d'ailleurs de votre usage de Strix Workout. Voilà la différence entre les deux. Et donc, la limitation de Strix, que je trouve un petit peu dommage quand même, c'est qu'on peut suivre que 12 habitudes. Si vous voulez en ajouter une autre, bah, il faut supprimer une qui existe. Et je trouve ça un poil dommage, même si ça fait quand même beaucoup de choses à suivre. Je trouve ça potentiellement un poil dommage. Strix permet ce qu'ils appellent des rappels intelligents, c'est-à-dire coup de là, de pouvoir programmer un rappel où il dit « Mon Dieu, tu n'as pas rempli tel truc d'ici telle heure. » Tu peux essayer de lui, tu peux lui dire « Essaie de deviner à quelle heure ce serait bien de me le rappeler. » Mais globalement, il tombe souvent à côté de la plaque, je trouve. Donc, je trouve ça un petit peu dommage et je pense qu'il pourrait retravailler cet aspect-là. Voilà. Donc Strix Workout et Strix, deux applications que je recommande, mais vraiment avec un focus sur Strix Workout pour l'aspect entraînez-vous chez vous avec ne serait-ce que un petit tapis de yoga pour comment dire, pour amortir les choses pour vos mains, vos genoux et votre dos. Voilà. Je sais pas si t'as une question sur le sujet de Strix.
J'ai des observations et des questions.
Vas-y.
Première observation, Yann.
Oui.
Yann.
Oui.
Encore des putains de to-do list, Yann.
Ça fonctionne pas comme une to-do list, je peux pas te laisser dire ça.
Non, mais...
Et tu sais quoi, ça a plus de sens de mettre des habitudes justement dans une application comme celle-ci plutôt que dans une to-do list où tu peux confondre ça avec du travail. Tu pourrais confondre ça avec du travail parce que ça pourrait te donner la satisfaction de retirer un truc de ta to-do list de taf alors que c'est pas le but. Et au final, tu vas avoir l'impression d'avancer alors que pas du tout.
C'est un truc qui m'embête dans Headspace, enfin qui m'embête, je suis pas fan, c'est vous avez fait ci tel jour, vous avez fait ci tel jour, ça ce jour-là.
Oui, il y a une gamification.
J'aime pas ce côté de si je le fais, je le fais quand je le veux. Tu vois, c'est
bien sûr. Mais faut comprendre que pour beaucoup de monde, c'est très utile.
Je sais, mais c'est un des petits travers, mais vraiment minuscules petits travers que tu as, c'est que tu as tendance à tout lister. T'es un listomaniaque.
Oui, mais ça permet d'avoir l'œil sur tout, donc c'est très bien.
Oui, mais c'est un peu antinomique du bien-être que de contrôler tout. Tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas passer ton temps à contrôler toute ta vie. Headspace est là pour t'aider à respirer aussi.
Je suis pas d'accord. Enfin, c'est une autre conversation, je trouve.
Oui, c'est une autre conversation. Mais oui, l'autre question que j'avais, enfin, deux questions.
Un truc important, c'est également en français. Je parle beaucoup d'outils qui peuvent potentiellement ne pas être en français. Oui. Strix et Strix Workout ont des traductions en français.
Oui, comme pour Headspace bonne. D'ailleurs.
Plutôt bonne. Headspace, c'est un autre problème parce que c'est beaucoup de contenu audio et là, ils ont besoin d'enregistrer des choses à part. Là, c'est juste des strings de texte qui sont remplacés. Mais oui, effectivement.
Le dernier point, parce qu'on en parlait justement sur le français, donc c'est bon, mais sur la nutrition.
Oui, ils n'en parlent absolument pas.
D'accord.
Non, il y a zéro sur la nutrition, et effectivement, il faudra vous retourner vers
je vais
méthodes, des coachs, etc.
Je vais te recommander quelqu'un qui va te faire un plan nutrition pour aller avec.
Je sais. Bah, écoute, ce sera le moment où j'aurai une plus grande indépendance là-dessus. T'inquiète pas. On va en discuter.
Je cherche des appartements en ce moment même, mais je sais pas si t'as entendu parler, il y a un truc qui s'appelle une pandémie en ce moment, c'est très rigolo.
C'est un album de Magoyon, ça?
C'est ça, c'est exactement ça. Fantastique.
Oui, c'est ça. Oui.
Eh ben, on en a fini pour le dossier pour aujourd'hui, mon cher Franck, et donc on passe au courrier. Alors, Pyram nous écrit et nous demande quel fauteuil chaise informatique choisir pour ne pas avoir mal au dos.
Alors, deux choses. Tout dépend de ta taille, de ton poids. Si tu es un gros bébé comme moi, grand et gros bébé comme moi, ça va être un peu compliqué. Ça dépend ce que tu veux, ça dépend quels sont tes moyens. Si tu as pas beaucoup de moyens, une Marcus IKEA peut relativement bien faire le taf parce que c'est un fauteuil qui est assez droit. Et au pire, tu mets un petit coussin pour tes fesses pour être un peu plus confort assis.
Donc tu recommandes d'aller chez Marcus, je note.
Voilà, oui, les petits. Salut les petits amis, c'est Marcus. En direct du Micromania de Créteil.
Non.
Oui, oui, ce qu'il le faisait. Oui. Marcus est un des grands emblèmes de Micromania où il faisait toutes les boutiques à une époque.
C'est vrai.
Pas, je me moque pas, j'aime bien Marc, je l'embrasse. Alors voilà, quel fauteuil chaise informatique? Alors, tu as plusieurs choix. Je vais pas te dire. Alors déjà, je ne vais pas te diriger vers les chaises de gamer de merde, genre les Arozzi, des X-Racer, machin, qui ont des corps. Je le dis clairement, qui ont des corps en bois. C'est-à-dire, ce sont des trucs en plywood, en bois recyclé, avec des mousses qui sont en plastique, tissu recyclé dégoûtant, qui n'ont aucune assise et où tu auras mal au derche très très vite, mal au dos très très vite, si tu es un peu grand ou un peu costaud ou que tu bouges pas mal à ton bureau, c'est pas confortable. Si tu veux vraiment quelque chose d'ergonomique, qui va supporter tes lombaires, te permettre de travailler droit, de pas avoir de douleur dans les épaules, dans les nuques. Il existe des fauteuils ergonomiques. Le pinacle, alors là on va rentrer directement dans le truc qui fait mal, parce qu'après ça le fait un peu moins si tu veux. Mais le pinacle, c'est de choper une chaise de chez Herman Miller. Herman Miller est un designer qui fait des chaises. Alors dans cette période, c'est pas forcément facile, mais il y a un truc en France qui s'appelle la Startup Nation, mon cher Pyram. La Startup Nation, ils adorent claquer de la VC money pour acheter des fauteuils, des tas de trucs. Et puis, ils se cassent la gueule parce que la moitié de leurs projets n'ont pas de modèle, n'ont pas de vrai business model, que leurs investisseurs sont souvent, parfois, voire souvent des gros requins. Et du coup, ils ont acheté des Herman Miller qui coûtent entre 1200 et 1600 euros. Oui, prix neuf. Hein. Tu les trouves sur des sites de déstockage entre 250 et 450 euros. Et si tu chopes une Herman Miller, t'es goldé pour 25 ans.
Merci les liquidations d'entreprise.
Merci les liquidations d'entreprise et les sites de déstockage et de liquidation sur Internet qui te permettent d'acheter tout ce que tu veux pas trop cher.
Génial.
Après, tu peux te diriger vers certains fauteuils gamers. Alors, il y aura des points de désaccord avec certains de mes nobles confrères, notamment un mec à cheveux gris qui râle beaucoup et qui a une voix très très douce et sexy. Salut, c'est CAF. C'est de la merde, Fox. Non, ta gueule, c'est de la merde. Mais moi, je suis parti chez Need for Seat, needforseat.fr.
Donc,
ils ont fait le jeu de mots. C'était obligé. Oh. Donc, c'est Maxnomi qui ont leur boutique française needforseat.fr. Et j'ai pris le plus gros modèle, puisque je suis dans les gens les plus grands et les plus gros qui soient. Même si je suis très beau et très séduisant, n'est-ce pas? Et j'ai acheté le Titanus XL. Enfin, j'ai acheté le Maxnomi XL.
Tu peux me rappeler le nom du.
L'autre, c'était le Titanus. Titan.
Il faut bien le prononcer, parce que sinon, on dirait que tu dis autre
Titanus.
Chose. Très bien.
Oui, d'accord. Non, oui. Tu as l'esprit mal tourné aujourd'hui, Yann. Le Titanus, Titanus Black, ou alors le Maxnomic XL, donc le gros XL, XXL même.
Moi je vérifie, hein, c'est un contrôle éditorial.
Oui, et je suis bien assis dessus, j'ai le dos bien droit. Mm-hmm. Étant donné que j'ai perdu du poids, parce que je continue mon régime, ma physiologie a un peu changé et j'ai perdu du gras au niveau de mon séant. Donc mon assise est un peu différente, donc j'ai eu un peu mal au cul pendant 15 jours.
Écoute.
Mais parce qu'il a fallu retrouver la position, mais honnêtement, tu peux prendre des Herman Miller en déstockage, ça te coûte pas trop cher. Si tu fais beaucoup de travail à ton poste, à la maison tout le temps, ou que tu penses être confiné encore plusieurs mois, ça peut valoir le coup aussi de chercher des fauteuils qui sont des fauteuils de PC sécurité et de PC audio, radio, qu'on trouve entre 300 et 700, 800 000 euros, après ça peut monter indéfiniment, qui sont ce qu'on appelle des fauteuils H24.
D'accord.
Qui sont des fauteuils pour que des gens qui sont en PC sécurité, par exemple pour la RATP, la SNCF, la police nationale, la sécurité nationale, ça sont des fauteuils qui coûtent un peu cher, mais tu peux y rester 24 heures dedans sans avoir d'escarres, sans avoir de plis qui font mal, de mal au dos, mal aux lombaires, mal aux fesses, mal aux muscles des cuisses. Et ça, tu peux aussi en trouver en déstockage, parce qu'il y a des boîtes qu'on achète pour certains développeurs, par exemple. Et les développeurs, on leur donne pas la possibilité, ça c'est un autre sujet. Parce que les liquidateurs judiciaires sont parfois des grands méchants, et ne permettent pas de racheter des mobiliers de bureau d'un bureau à l'autre, parce que en fait, ils veulent se débarrasser de ça pour un prix, mais ils sont pas bons pour les créanciers non plus, et donc pour l'entreprise en elle-même. Mais tu peux en trouver dans des déstockages et des ventes pour des fois pour 70 balles, une chaise qui vaut 1700 balles est partie il y a pas très longtemps, un copain pour 70. Et il connaissait la boîte, il avait entendu qu'elle fermait et le commissaire-priseur n'a eu rien à foutre, vente à la bougie, 70 balles, boum.
Ah oui.
Ah, ça fait mal, hein, ça fait très très mal. Donc voilà, tu peux partir vers les Maxnomic parce qu'elles ont des corps en métal. C'est entièrement en métal. Les mousses sont de très très bonne qualité. Choisis bien la taille en fonction, enfin le fauteuil en fonction de ta taille et de ton poids. Si tu as des particularités sur les lombaires, ils ont des modèles bureaux qui n'ont pas toujours des assises forcément sympas. Mais ce que tu peux faire, si vraiment tu as besoin de conseils, c'est les appeler carrément parce qu'ils ont un service. Il y a un service très très bien, un service avant et après vente qui est vraiment cool. et qui est basé en France, hein, parce qu'ils sont basés à Tours, l'antenne française. Donc, et après, c'est Herman Miller. Le Pinac, ça reste une Aeron, A-E-R-O-N, Aeron Herman Miller, qui est une merveille. Et avec ça, t'auras jamais mal au dos. T'auras pas chaud l'été parce que c'est une espèce de tissu tendu aéré. Le coussin peut avancer, reculer et te permet d'avoir une fixation lombaire excellente. Et c'est ce qui fait le plus mal au dos chez les gens en général.
Ouais. On passe au message de Chichi qui demande quels sont les meilleurs logiciels pour créer un site web en fonction du niveau, débutant ou confirmé. Je pense, Chichi, que ça fera l'objet d'un dossier. C'est quelque chose qu'on avait déjà dans le document depuis un moment en termes de dossier potentiel. C'est sur la liste, hein, si tu veux, et ça vaut pas vraiment le coup d'en parler plus avant. Dans l'épisode précédent, j'ai fait la présentation de Card, qui est une solution que j'utilise, une solution payante, que je recommande. Donc, je te renvoie déjà à ça, puisque techniquement, c'est quelque chose qui peut être géré dans sa version la plus basique par quelqu'un de relativement débutant, je trouve, pour peu que la personne, on va dire, n'ait pas peur de simplement passer un peu de temps à manipuler un site internet en what you see, what you is what you get, c'est-à-dire vraiment de modifier les choses un petit peu à la main et de comprendre comment ça fonctionne. Il n'y a pas besoin d'installation ou de trucs surréalistes à faire ou à mettre en place ou de concepts énormes à comprendre. Il suffit de jouer un petit peu avec la version gratuite et je pense que ça donne déjà une bonne idée. Donc en attendant de ce côté-là, et puis nous, on en fera un dossier au cours de 2020, je pense, hein, pas nécessairement cette saison-là, pas nécessairement d'ici l'été, mais probablement d'ici décembre, je pense qu'on en parlera. Parce que ça reste dans les dossiers qu'on veut faire dans un futur pas trop lointain. Quentin demande, un peu technique, sans doute qu'un invité serait pas de trop, alors là aussi peut-être potentiellement pour un dossier, mettre son ordinateur au service de la science avec des choses comme Folding at Home. Je pense qu'en fait, on pourrait en parler sur le paravent plus large des usages passifs des machines, en fait. S'en servir comme serveur Plex, ce genre de choses. Je pense qu'il y a peut-être une idée de dossier qui fonctionnerait mieux comme ça que simplement un dossier au service de la science. Je sais pas ce que t'en penses, Franck, mais c'est comme ça que je le vois.
C'est un vaste domaine. Moi, j'ai utilisé pendant, je sais plus, de 2009 à 2015, Folding at Home, qui est donc un système qui permet d'allouer du CPU à la recherche médicale. C'est des millions de gens qui sont connectés depuis leur machine de travail. Chacune peut gérer sa charge comme elle l'entend. Et Folding at Home va travailler dès que le PC est allumé. Folding at Home travaille. Quand t'es en idle, par exemple, s'il voit que t'es absent depuis 5 minutes, bah, il va mettre la puissance au max. Et puis quand tu reviens, il la remet à des niveaux corrects, des niveaux que tu as pré-réglés toi-même. C'est intéressant. Un expert, alors il faudrait, à la limite, si on parle de Folding at Home, il faudrait parler à ce moment-là des nouvelles voies plutôt. Je serais plus partant pour parler des nouvelles voies de la recherche, notamment ce qui est fait par le MIT, donc le Boston Massachusetts Institute of Technology de Boston, qui travaille notamment avec l'IA, et l'IA qui a trouvé de nouveaux antiviraux, de nouveaux anti-inflammatoires et de nouveaux médicaments récemment grâce à une IA qu'ils ont développée au MIT, qui est un truc assez violent puisqu'il y a des antibiotiques aussi qui ont été trouvés, qui sont des antibiotiques d'un nouveau genre, puisque ceux-là n'ont jamais été utilisés, donc il n'y a pas de résistance contre eux, de la part des bactéries. Parce que c'est l'un des grands mal de notre nouveau siècle, c'est qu'on bouffe des antibiotiques à tort et à travers, notamment via la nourriture. À travers la nourriture qu'on mange, on a des antibiotiques dedans, notamment dans certaines viandes. Évidemment, si vous êtes dans des circuits courts et que vous faites attention à ce que vous mangez, vous en avez moins. Mais dans beaucoup de pays et beaucoup de plats cuisinés, il y a des nourritures, des viandes qui sont pas élevées de la meilleure des manières, qui sont pas respectueuses pour l'animal, et qui sont donc des pauvres animaux qui sont chargés d'antibiotiques pour pas qu'ils tombent malades. Et donc la viande contient des antibiotiques et elle t'immunise petit à petit contre les bactéries, qui deviennent elles-mêmes immunisées aux antibiotiques les plus puissants. Donc ça pourrait être intégré, si tu veux, dans un dossier, la technologie au service de la science, avec Folding at Home, avec les IA de développement. Et on pourrait même avoir un invité, je pense, je verrai avec cet invité-là, cet ami, prochainement.
D'accord. Vortex demande Mac ou PC ?
Les deux selon l'usage ?
Oui, c'est ce que j'allais dire. J'ai racheté un Mac parce que Logic, parce que les programmes audio de Rogan Bain.
Parce que le travail
pour moi, mais évidemment le travail pour d'autres personnes, ça peut être uniquement
c'est
Windows.
Un PC.
Un point quand même qui est indispensable et qui vaut le coup d'être rappelé, si vous comptez jouer à du jeu vidéo autre, des jeux indépendants sortis il y a 5 ans, ce sera Windows, ce sera un PC.
PC,
voilà.
Évidemment.
Eric demande vos méthodes et logiciels anti-procrastination. Il faut qu'on en parle plus largement, je pense, même si en soi, enfin, sur l'angle de la productivité, on l'a déjà travaillé à travers plusieurs sujets, que sont notamment celui du time tracking, donc de compter un petit peu le temps qu'on passe à travailler, mais également des gestionnaires de tâches, des outils pour le travail collaboratif. On a fait pas mal de sujets qui sont, on va dire, procrastination adjacent. Peut-être un dossier dédié à ça, peut-être pas tout de suite pour laisser un petit peu d'eau couler sous les ponts, je pense, après les différents dossiers qu'on a fait ces dernières années. Donc, à voir.
Moi, j'ai trouvé une super méthode.
Ouais, vas-y.
J'ai trouvé une super méthode. C'est infaillible. J'aurais pas cru que ça marcherait aussi bien sur quelqu'un comme moi qui suis un procrastinateur. Je suis un procrastinateur. Je le sais. Mmh. Je procrastine. Je suis un pêcheur. Ayez 4 clients en même temps. Alors là, je vous garantis sur la vie de ma mère, comme dirait l'autre, la procrastination, tu te la colles derrière l'oreille et tu bosses.
Très bien. Luigi PVL qui demande qu'on fasse un coup de rétro dans les grands ou ex-grands éditeurs de logiciels pro. Lotus, Corel, Microsoft, 1-2-3, WordPerfect, Works. Pourquoi ils ont bien marché? Pourquoi ça continue? Pourquoi ça s'est arrêté? Pour éclairer le présent. J'ai envie de te dire, Luigi PVL, tu ne demandes pas ça au bon podcast.
Oui.
C'est pas notre angle d'apporter un éclairage historique. Ça demanderait un travail pour moi, en tout cas, et potentiellement aussi pour Franck, suivant les sujets. Un travail de recherche pour se pencher sur des choses dont on n'a pas nécessairement l'expérience, qui serait assez conséquent. On n'est pas là pour ça à ce stade, je rappelle. Enfin, c'est Tech2, ça reste mon seul output stable en termes de tech, en termes de production, que ce soit écrit, audio, etc. Certes, là, j'ai contribué récemment à une série qui sortira prochainement de Canard PC Hardware, mais là aussi, dans un domaine très particulier et avec une ligne dans ce papier-là qui est très proche de ce qu'on fait ici avec Tech2. Je me sens pas la légitimité de le faire.
Ah, puis non, mais si on doit commencer à parler de Works...
j'ai tripoté Works une fois, mais...
Works, enfin,
j'ai à dire,
rien que Lotus, enfin, moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus. J'étais user sur Lotus, Works, WordPerfect pendant longtemps, parce que je suis vieux, mais je suis incapable de te dresser un historique de ces trucs-là. À ce moment-là, faut qu'on parle de Sun, faut qu'on parle des anciens, toutes ces anciennes boîtes de tech, et c'est pas un sujet qui serait Tech2, c'est la tech selon les usages. Là, c'est du pur rétro rétro nerd. Et honnêtement, je me vois pas passer 20 heures à préparer un dossier qui va être au final extrêmement chiant. Parce que la plupart de ces boîtes, soit sont mortes, soit ont été rachetées, soit sont partis sur des forks qui sont devenus après, qui ont été intégrés après dans d'autres programmes. C'est très long, c'est beaucoup beaucoup de travail pour le coup, et c'est pas forcément un truc très intéressant, à moins que vraiment tu sois en mode voilà ultra nerd. Ça va parler assez peu de monde. On essaye de satisfaire aussi tout le monde. Et là j'avoue c'est un dossier ardos, hein, parce que c'est un dossier de 4 heures si on commence ça. Faut 4 heures pour tout faire.
Non, effectivement. Donc c'est pas forcément pour le bon podcast. Vincent nous écrit, nous demande. Je me permets de vous contacter car je souhaite faire l'acquisition d'une machine dédiée à la MAO, donc la musique assistée par ordinateur, pour un budget maximal de 1 500 €. Ce serait pour faire tourner des projets sous le logiciel Reaper, d'une douzaine de pistes, avec des traitements audio, compression, égalisateur, delay, via des plugins VST. Je ne connais pas la configuration minimale requise pour ce type d'utilisation. Ayant eu des soucis par le passé sous Windows et étant actuellement sous Mac, pour lequel j'apprécie la stabilité du système, j'aurais souhaité rester sur le même OS. Cependant, vu des tarifs sur la boutique en ligne d'Apple, je me pose des question suivante, est-ce que les Mac à moins de 1 500 € peuvent faire l'affaire pour mon utilisation? Alors on va traiter les autres questions ensuite, mais déjà sur cette question-là, je sais pas ce que t'en penses Franck, mais moi justement, je me suis récemment fait un Mac pour un usage qui est comparable, même si j'utilise pas forcément des pistes qui sont des projets qui ont autant de pistes. J'utilise des projets qui ont des pistes beaucoup plus longues, comme on peut se rendre compte à l'écoute par exemple de cet épisode. À moins de 1 500 €, ce sera nécessairement un Mac portable. Probablement parce que qu'est-ce que tu vas faire avec un Mac mini d'entrée de gamme? Est-ce que ça va être suffisant?
Non.
Ça va être suffisant, mais le temps de render va être long, quoi.
Deux choses. Déjà, tu vas balancer 10-12 pistes sur ton Reaper. Si t'as pas 16 Go de RAM minimum, déjà, ça va coincer. Si t'as pas 32, tu vas souffrir du derche, mais tu vas souffrir toute ta vie. Sur un Mac, je vais aller plus vite que ça même. Je veux dire, Mac, non. À 1500 balles, tu prends pas un Mac.
1500 balles
désolé.
Pour de la bonne performance, c'est pas possible. Là, j'ai claqué beaucoup plus.
Non, t'as claqué beaucoup plus et une équivalence PC pour le même prix.
Ouais.
Pour le même prix sur un PC, t'as une machine qui peut te faire faire du 64 pistes VST en cascade avec 32 gigas ou 64 gigas de RAM. Enfin, bon, c'est...
Et simplement, si ton usage reste identique, bah, elle te durera plus longtemps. Donc c'est aussi
elle te durera 10 fois plus longtemps.
Donc non. Et du coup, on va directement sauter dans ce cas-là à la dernière question de Vincent, qui est-ce que ma crainte concernant le manque de stabilité sous Windows est justifiée?
Alors,
il y a plein
Vincent,
de gens qui font de la MAO qui sont sous Windows pour le coup.
Voilà, non. Alors, c'est pas plein, c'est qu'aujourd'hui, enfin depuis presque 8 ans, les professionnels de la musique, je parle de personnes de studio, des enregistrements studio, des créateurs, tout ça, sont partis de Mac. Parce que Apple ne fournit pas suffisamment de choses intéressantes pour eux. Je fais des configs pour des musiciens qui font de la musique électronique, notamment des mecs de la Synthwave, de la scène Synthwave. J'ai refait il y a pas si longtemps, je me suis occupé de la bécane d'un très bon copain qui s'appelle Leslie Nayoko, qui est un musicien Synthwave qui fait une musique que j'adore, qui est vraiment cool. Et lui, il a été sous Mac, il a été sous PC, il était sous PC Windows, il avait un très très vieux PC. Et le problème, c'était pas tant la stabilité de Windows. Le problème, c'est que sa bécane, elle était en train de mourir. Donc, honnêtement, Vincent, ce que tu vas faire, c'est que franck@blueprint.pm, tu m'envoies un mail. Je vais te faire une config de travail. Tu pourras même jouer avec. On va te faire une config de travail avec de l'AMD. On va te foutre 32 gigas de RAM. On va te monter ça dans un petit format parce que t'as pas d'impératif, mais tu vas vouloir certainement une tour un peu petite et qui fait pas de bruit. Donc on va monter ça. Je suis passé par faire des templates maintenant. J'ai des templates de machines en fonction des budgets des gens à peu près.
Bientôt t'auras des raccourcis clavier pour les déclencher.
42 templates, j'en peux plus déjà. Et tout le reste est dans ma tête. Les 300 autres sont dans ma tête.
Franchement, faisons un Patreon, c'est pas possible.
Non. Alors non, je l'ai déjà dit. Je vais le redire une fois parce que
non, pas un Patreon, mais monétise ça.
Non, très clairement pour les auditeurs de Tech2, les particuliers.
Non, pas les auditeurs.
Les auditeurs, les particuliers qui viennent me voir, qui ont besoin d'un conseil, les petits auto-entrepreneurs, c'est-à-dire les petits streamers, les mecs qui font de la PAO, de la MAO, qui ont des petites entreprises, ce sera toujours gratuit. Par contre, si vous avez une boîte, une entreprise, que vous avez des salariés et que vous voulez que je m'occupe de votre parc, comme certains me l'ont déjà demandé, certains auditeurs qui nous écoutent probablement encore et que j'ai et qui m'ont envoyé chier parce que je leur ai répondu gentiment que non, parce qu'il fallait non. Là, c'est payant. Si vous êtes une entreprise et que vous investissez dans un parc pour votre entreprise, c'est un coût. Je vais pas me fader 10, 15, 25, 35 bécanes pour vos beaux yeux. Le temps que ça va me prendre, le temps, c'est de l'argent. Je suis un entrepreneur aussi.
C'est un service B2B.
C'est un service B2B. Exactement. Parce qu'on n'attache pas les chiens avec des saucisses non plus.
C'est ça.
Donc voilà, pour les gens, c'est pour les particuliers. Ah, évidemment, si vous êtes un petit malin, comme il y en a 2-3 qui ont dit oui, j'aimerais bien, machin, et qui sont fait passer pour un particulier, et au final, c'était pour leur bécane de taf. Dites-le-moi que votre IT, ils veulent pas, que votre boss, il y connaît rien, je vais vous rendre service, je suis pas un connard non plus, si tu veux. Mais me mentez pas, au bout d'un moment, j'ai des yeux, j'ai des oreilles, il y a des gens qui parlent. Bon, ça finit par savoir, n'est-ce pas, Philippe?
Édouard, Philippe, t'as demandé pas.
Non,
oui.
Non, il s'appelle Édouard, pas Philippe.
D'accord. Bah, je sais pas. Tu l'appelles peut-être par son nom de famille. Moi, j'appelle moi, il y a certaines personnes que j'appelle.
T'as ton prénom, c'est Yann, c'est juste. Oui. Bah, lui, c'est pareil, c'est juste.
Bien. Ok.
Voilà.
Ok, cool. C'est bien noté, merci. Donc voilà. C'était pour le mail de Vincent. On est parti très loin, mais j'ai l'impression qu'on a répondu, on va dire, à l'essentiel.
C'est la détente.
Enfin, Sacha nous fait un retour sur notre épisode précédent. Et évidemment, si c'est Sacha, je ne peux pas m'empêcher de faire une blague très évoluée.
Te revoilà.
Voilà.
Qui nous avait déjà écrit, Sean. Donc oui.
Donc Sacha qui nous écrit « Bonjour à tous les deux, j'espère que vous allez bien. Oui, je me permets de vous écrire pour vous parler de quelque chose que l'application iOS et iPadOS de Firefox permet, que je trouve très intéressant, à la condition évidemment de se créer un compte Mozilla. »
Oui.
Une fois ce compte créé et associé à tous vos navigateurs, que ce soit sur PC, Mac, iOS et iPadOS, on peut transférer de manière complètement fluide un onglet ou un lien sur une autre machine, que celle-ci soit en fonctionnement ou non. Il m'arrive par exemple très souvent de transférer un article de mon iPhone vers mon iPad pour qu'au moment où j'ouvrirai celui-ci pour le lire tranquillement, l'onglet apparaisse instantanément. Autre avantage, cette fonctionnalité est accessible depuis la fonction de partage chez Apple, donc c'est la fonction handoff, où ça, en gros, l'application d'un autre appareil s'affiche dans le dock à gauche. Et vous pouvez appuyer dessus pour lancer ladite application avec à l'endroit dans lequel l'autre device est ouvert. Donc, par exemple, sur une page Safari, il vous permet de l'ouvrir de cette manière-là. Depuis la fonction de partage chez Apple, ainsi que d'autres trucs tout aussi sympas, comme l'ouverture en arrière-plan si vous êtes sur un autre navigateur. Ou que vous souhaitez d'abord finir ce que vous faites sur l'onglet en cours. Ajoutez à la volée le lien sélectionné dans vos marque-pages ou l'ajoutez à votre liste de lecture qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, accessible sur tous les appareils. Pour ma part, c'est quelque chose qui m'a finalement décidé de laisser de côté Safari. Aujourd'hui, je l'utilise à quasiment 80% Firefox sur tous mes appareils. Je vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. C'est un véritable kiff de vous écouter. Des bisous et bonne continuation. Et bien, des bisous aussi à toi, Sacha.
Bisous distanciés.
C'est vrai. Bah après, il faut vouloir utiliser Firefox sur tous ces devices et c'est un choix si tu y trouves ton compte.
C'est ce que
compte.
Je fais. C'est vrai que moi, je passe par Instapaper parce qu'Instapaper me permet d'avoir ce que me permettait Read Letter Fast, en fait. C'est-à-dire, je les garde en archive et j'ai pas l'idée d'aller chercher dans Firefox. Je vais directement les chercher dans Instapaper parce que c'est mon moment lecture, si tu veux. C'est mon application lecture à rattraper.
Mais pour le coup, il y a rien de ce que dit Sacha ici qui est incompatible avec Safari, par exemple. C'est juste la façon dont c'est présenté dans l'application qui est différente et qui est peut-être plus évidente pour toi ou plus pratique pour toi. Et évidemment, à chacun ses préférences, mais je tiens à le dire, ces fonctionnalités-là, elles sont quasiment partout sur les navigateurs modernes. Je pense que Chrome j'utilise pas Chrome depuis très longtemps et j'ai pas utilisé Chrome en conjonction avec une application mobile, mais j'ose imaginer que Google a le même genre d'implémentation, en tout cas sur Android.
Je l'avais pas vu quand je l'utilisais, en tout cas.
Et en tout cas, Firefox et Safari, c'est ce qu'on peut garantir, et le reste, c'est à vous de le découvrir. Pour nous écrire, c'est tech2@blueprint.pm, c'est par mail ou par Twitter, @tech2BP. Et ce petit rappel conclut cet épisode 61 de l'émission. Merci à vous de l'avoir écouté. Tech2, c'est une émission produite et réalisée par Blueprint. Merci Julien Bro pour le logo et Benji Pesque pour l'habillage sonore. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, c'est @inkshd. Et toi, Franck, on te retrouve sur les internets @foxmonsieur.
Eh oui, Fox Monsieur, le renard monsieur.
Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à parler de Tech2 autour de vous et à partager le podcast à vos amis. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, passez un bon moment. Allez, au revoir, ciao, ciao.
Ciao.
But it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
Eh oui, Fox Monsieur, le renard monsieur.